La traditionnelle parade militaire a ouvert ce matin les festivités à Londres. Jusqu'à dimanche, les Britanniques fêtent en grande pompe les 70 ans de règne de leur reine bien-aimée.
La reine Elisabeth est un modèle pour les femmes, et les hommes aussi. C'est une merveilleuse dirigeante, et je voulais célébrer avec elle ce jubilé.
À Buckingham Palace, comme devant leur écran de télévision, les Britanniques ont retenu leur souffle lorsque Queen Mum, 96 ans, est apparue au balcon. Entourée de la famille royale et acclamée par la foule, comme en 1953, lorsqu'elle fut couronnée reine à seulement 25 ans, la concrétisation d'une promesse de princesse.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service.
Depuis, Elizabeth Forever fait partie de la vie de plusieurs générations de Britanniques et représente le socle d'une monarchie secouée par les scandales. Garante des institutions du Royaume-Uni, la reine est tenue de ne pas exprimer son avis sur les affaires publiques. Mais ce jour-là, en pleine tourmente du Brexit, le tailleur bleu de la souveraine et les fleurs jaunes rappelaient comme par hasard le drapeau européen. La monarchie britannique doit s'adapter à un monde nouveau. À la tête du Commonwealth, Queen Mum est chef d'État de 15 pays membres, mais certains aspirent à couper le cordon. Depuis novembre dernier, Elisabeth II n'est plus reine de la Barbade, et la Jamaïque pourrait-elle aussi détrôner la monarque?
Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. C'est assez long maintenant pour que le peuple jamaïcain fasse comprendre très clairement à la reine et à sa famille qu'il est temps de changer.
Alors la monarchie britannique est-elle arrivée à un tournant décisif? Le Royaume-Uni aspire-t-il à autre chose? À quoi servent encore la reine et la famille royale?
4, et oui, parce que 4 jours de festivités, merci, ont donc commencé au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de platine Elisabeth II, dont 2 jours exceptionnellement fériés, comme quoi il n'y a pas que les Français qui ont des jours fériés. Alors, no offense, Jameson, mais est-ce que c'est pas un peu too much d'avoir pris 4 jours pour célébrer la reine?
Ce n'est pas assez.
Ce n'est pas assez. Assez.
Ah. Non. Mais on va s'en contenter parce que les temps sont durs. Mais
pour qui?
Tout le monde. Ah. Y compris la reine,
bien sûr. Ah, y compris la reine.
Mais non, il est vrai que certains critiquent toutes les dépenses qui sont là. En même temps, des dépenses sont nécessaires dans un pays, dans une nation, dans un État, parce qu'il faut incarner cet État, il faut que les gens se voient en grand, en quelque sorte. Et justement, on parlait tout à l'heure de sobriété. Sobriété, oui, vous avez parfaitement raison. Économique, parce qu'à l'intérieur de cet écrin d'or, le bijou de la reine, c'est un personnage relativement modeste. Et c'est ça ce qui est important. C'est quelqu'un qui, elle n'abuse pas. Dans les monarchies, on trouve en fait que ce sont souvent non pas les monarques, mais leurs parents qui sont dispendieux, qui font tout et n'importe quoi, tandis que les monarques sont obligés de jouer un rôle. Et la reine, elle joue ce rôle 24 heures sur 24.
C'est le sentiment que vous avez eu et que vous avez encore, Sylvie Berman, Madame l'ambassadrice.
Oui, tout à fait. Elle joue un rôle en réalité très important, parce que bon, vous l'avez cité, elle incarne l'histoire, la nation, la continuité. Mais c'est le vrai soft power du Royaume-Uni. Et donc, finalement, ça ne coûte pas cher pour avoir un soft power de cette envergure. Quand des chefs d'État étrangers, que ce soit Xi Jinping ou Donald Trump, viennent à Londres, il est entendu qu'ils rencontrent la reine et ils en sont très fiers. Donc, je pense que c'est important. Et dans ses relations avec les pays étrangers, et en particulier avec la France, puisqu'elle aime beaucoup la France, je pense que elle joue un rôle aussi. Donc c'est du non-dit, mais c'est un rôle important, y compris sur le plan diplomatique.
Et vous, Christian Roudot, qui avez été donc correspondant à Londres pour Radio France, vous avez senti cette ferveur vraiment britannique? Pour vous, elle est unique? On entendait des envoyés spéciaux là, qui nous disaient aujourd'hui, on n'a jamais vu ça en France, pour le 14 juillet, ça n'existe pas. C'est ce que vous avez ressenti, cet unanimisme?
Écoutez, on fait son boulot de reporter. Quand on est sur place, bien évidemment, on va voir les mordus de la couronne, ceux qui sont là depuis 3-4 jours toujours à camper sur le mal. Et on ne va pas voir ni les républicains, encore que, ni surtout les gens qui, entre nous soit dit, n'en ont pas grand-chose à faire et qui trouvent qu'il y a un petit côté un petit peu désuet.
Il y en a
c'est
donc,
plutôt sympathique.
Il y a quelques Anglais qui sont
mais c'est cette majorité silencieuse dont on ne parle assez peu. Alors vous aurez du monde sur le mal, des gens qui vont s'occuper pendant 4 jours, qui vont aller dans les pubs, puisqu'ils ont étendu les horaires de fermeture. Mais franchement, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui?
Est-ce que ça rapporte économiquement, là, ces célébrations?
Là, je pense qu'effectivement, en termes de soft power, et c'est assez difficile à quantifier, mais je pense que ça a un impact, oui.
Elle rend presque service au monde entier, cette reine, parce qu'on a un président qui se célèbre peut-être lui aussi dans une forme de monarchie républicaine, non?
Oui, je crois que les Français savent être flatteurs quand ils veulent, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, et là, on sort du contexte spécifiquement britannique, la monarchie britannique, c'est une institution européenne. C'est une des institutions européennes les plus anciennes. Il y a l'Église catholique qui est plus ancienne encore, mais il y a au moins 1000 ans là-dedans. Et ça, c'est important pour nous tous, parce que quelque chose qui dure dans le temps, ça montre que nous pouvons durer, nous pouvons construire des choses qui ne sont pas tout simplement abolies et effacées. Et
dans sa personne, ce n'est pas un château de sable, en somme.
Voilà, un château de sable qui résiste, c'est mieux que les autres.
Mais vous n'êtes pas d'accord?
Non. Sa longévité est inversement proportionnelle à la quantité de ses réalisations. Finalement, je défie quiconque autour de cette table de me dire qu'est-ce qu'elle a réalisé, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a subi les événements, elle a subi la transformation
de la
monarchie.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être, quand même.
Elle, en tant que jeune, elle a participé en tant qu'ambulancière. Elle n'était pas sur le front non plus. Je trouve qu'on a tendance à... Bon, c'est toujours le cas. Moi, j'ai vécu le jubilé d'or. On a toujours tendance à faire une sorte de célébration de Sainte Élisabeth, dont les réalisations finalement très bien, c'est une dame tout à fait respectable, mais c'est pas non plus quelqu'un, c'est un témoin de l'histoire, mais pas un accompagnateur, enfin pas quelqu'un qui a transformé l'histoire.
Qu'est-ce qu'elle a fait, Jerry Stubbs, de mémorable?
Et après,
mémorable,
bien sûr, c'est Lieberman.
La liste serait assez longue.
Vous pouvez la synthétiser en 40 secondes.
Et on ne sait pas. Mais tout ce qu'elle a fait, par exemple, pour le Commonwealth.
Oui.
En fait, au début, quand le Commonwealth a été créé, les politiques de Londres ne voulaient pas que ça ait tellement d'importance. C'est elle qui a insisté et qui a donné une gouvernance à cette institution. Elle a agi. Quand elle a décidé de payer les impôts, les politiques étaient contre. C'est elle qui a décidé.
C'est John Major qui l'a obligé, le Premier ministre.
C'est absolument faux.
Je
m'excuse, Christian, mais c'est absolument... John Major a dit lui-même... Moi, j'étais pour qu'elle ne paye pas, mais elle a insisté. Ça, c'est la vérité.
Bon. Attendez, c'est Lieberman. Oui.
Est-ce qu'elle dure aussi parce qu'elle ne fait pas de politique, la reine? Est-ce que c'est ça aussi la recette?
Vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises en étant ambassadrice
absolument.
De France à l'époque.
Déjà, en remettant mes lettres de créance, elle est absolument charmante, elle a beaucoup d'humour, elle connaît parfaitement les dossiers, d'ailleurs. Elle a de l'humour, elle connaît les dossiers parce qu'elle reçoit du Foreign Office, dans ses red boxes, les boîtes rouges, toutes les information, mais c'est surtout cette incarnation qui est importante. Et alors, quand on parle du Commonwealth, elle a été contre l'apartheid et elle s'est même battue contre Margaret Thatcher sur ce sujet. C'est un des rares moments où elle a joué un rôle. Mais en tout cas, moi, je trouve que déjà cette incarnation, alors qu'il y a des hauts et des bas, y compris dans la démocratie britannique, il y a différents premiers ministres, il y a eu des crises, il y a eu le Brexit, bien sûr, le Covid aussi. Souvenez-vous, elle a dit quatre phrases.
Rappelez-nous ce qu'elle a dit.
Au moment du Covid, je ne me souviens pas, au moment du référendum sur l'Écosse, mais c'était anodin. Oui. Mais en disant on retrouvera les jours heureux, c'était pour rassurer la population. Et il y a eu des émissions entières là-dessus.
Mais par exemple, Christian Boudot, sur le Brexit, est-ce que vous dites qu'il y avait chez les Britanniques, certains, ceux qui étaient pour rester en Europe, ils auraient aimé que la reine s'en mêle? Est-ce qu'elle aurait pu, à ce moment-là, avoir une action historique dans ce sens?
Ce que je constate, c'est qu'effectivement, son rôle institutionnel ne lui permet pas de s'impliquer dans le débat politique, surtout sur un débat aussi inflammable.
Parce qu'elle peut voter, mais elle ne le fait pas. Elle peut voter, mais elle ne le fait pas.
Et elle ne s'exprime sur aucune grande cause, à l'inverse de son
fils. Et pourtant, Richard. Toutes les lois sont rendues en son nom.
Mais voilà, mais c'est ça. On a une ventriloque qui, par exemple, au moment du discours du trône, dit le discours qui lui a été rédigé par le gouvernement. Elle signe son royal consent, son consentement royal, sur des textes de loi. C'est la même personne qui avalise l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union, dans la CE, comme on disait à l'époque, en 1973, c'est la même personne qui avalise la sortie du Brexit. C'est montrer à quel point son rôle institutionnel et même presque personnel, parce qu'elle n'a aucune envie de s'impliquer dans le débat, elle est d'une neutralité absolue, ce qui la rend, à mon sens, quand même assez ennuyeuse, quelque part, si je puis me permettre. Je sais que je rame un petit peu à contre-courant la Tamise, mais je pense que c'est pas un manquer de respect que de dire ça. C'est son rôle constitutionnel et c'est sa nature.
Juste à la politique intérieure au Brexit, elle n'aurait pas pu, pour vous, à ce moment-là, intervenir avec peut-être la même émotion, au lieu d'arborer une robe, on l'a vu dans le reportage, qui était censée manifester son adhésion à l'Europe.
Non, justement, en tant que chef d'État, elle est obligée de rester neutre, et cette neutralité est un exemple pour nous tous. C'est-à-dire qu'elle est là pour assurer le fonctionnement des choses et pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Et ça, elle est très stricte là-dessus, elle a raison. Pour les émotions, elle incarne, et j'apprécie que Christian trouve ça un peu ennuyeux, mais en fait, elle incarne la doctrine « less is more ». On en fait moins. Et la reine, une de ses activités majeures qui prend une grande partie de son temps, ce sont son rôle dans les œuvres charitables.
Caritatives.
Sans limite. Elle va voir des gens dans la détresse, elle rassure des gens qui sont malades. Elle fait ça tout le temps, elle ne pleure pas devant eux, elle maîtrise ses émotions et les gens sont doublement consolés par ce fait, tout le monde en témoigne.
Sylvie Berman, en même temps, la monarchie a quand même vacillé. Là, on a l'impression, on enjolive un peu les choses, mais on se rappelle après la mort de Diana en 97, elle a été mal perçue, sa cote de popularité a baissé, donc ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, cette monarchie
non,
et cette reine.
C'est vrai, mais ça a duré très peu de temps. Tony Blair l'a convaincue qu'il fallait qu'elle vienne à Londres, et finalement, elle a retrouvé très très vite sa popularité à ce moment-là. Et depuis, d'ailleurs, elle fait attention aussi au peuple. Par exemple, il y a eu ce terrible incendie à Greenfield, une tour qui a complètement brûlé avec des centaines de personnes qui sont mortes. À l'époque, c'était Theresa May. Elle n'est pas allée les voir, elle est allée voir uniquement les pompiers. La reine était allée la veille, elle est allée parler à tout le monde. Donc ça, c'est très apprécié. Et je voulais citer une réflexion qui a été faite quand j'étais au Royaume-Uni. Quelqu'un a demandé, mais au fond, à quoi sert un roi ou une reine au XXIe siècle? Et la réponse a été à ce que le Premier ministre ne se prenne pas pour un roi. Et je trouve que c'est très important comme réflexion.
Un garde-fou, en fait.
Parce que c'est une dichotomie, c'est-à-dire vous avez une reine, mais ce n'est pas elle, effectivement, qui gouverne. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui gouverne et qui gouverne dans la simplicité, sans l'apparat.
C'est la même chose avec son Premier ministre.
Alors, oui, mais il reste l'apparat à l'Élysée. Ce qui est très bien, d'ailleurs, quand il y a des visites officielles. Moi, je ne suis pas contre. Mais c'est vrai qu'au Royaume-Uni, il y a cette dichotomie et qui peut être utile.
Christian Rodeau, si on fait un instantané, on a l'impression que tout le monde vénère cette royauté. Même le Sinn Féin, la branche politique de l'IRA, a célébré le jubilé. Mais est-ce qu'il y a des républicains en Angleterre ou au Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment opposés à la monarchie?
Alors, d'une part,
et qui sont organisés et structurés, quoi.
Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, la reine, en tant que telle, en tant que personne, ne suscite pas une hostilité franche. Effectivement, encore une fois, je crois qu'elle a des taux de popularité himalayens de l'ordre de 92%. Mais encore une fois, quand on ne fait pas grand-chose ou qu'on ne prend aucune décision, c'est facile d'être populaire. Elle ne met pas trivialement les mains dans le cambouis. Donc les républicains, ils représentent grosso modo autour de 20% de l'opinion.
Il y a une fracture générationnelle.
Je pense que les jeunes sont beaucoup moins, vénèrent beaucoup moins, ou même une fracture ethnique. Je pense que c'est plutôt Little Britain, Little England qui va se retrouver avec le petit drapeau ou les petits fanions le long du Mall Avenue. Il y a quand même cette coupure que moi j'ai pu observer lorsque j'étais en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et il y a même une fracture aussi entre l'Écosse, l'Irlande du Nord, même si le Sinn Féin, effectivement,
à célébrer le jubilé de platine. On va évoquer avec vous, Nadia, le Commonwealth.
Ouais, et l'Australie, bien partie, en tout cas pour se passer de la couronne. Et le calendrier est intéressant. Il ne doit sûrement rien au hasard. Mardi, c'était 10 jours à peine après son élection législative et 2 jours donc avant le jubilé. Le tout nouveau Premier ministre